Les coqs chantent et jour paraît, tous ces debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Les oiseaux. Voilà.
Alors la conférence
sur
les oiseaux, c'est à côté, c'est au temple.
Ah, c'est au temple.
Ah,
au temple.
Ah,
merci.
Voilà, merci.
Nous sommes au 31e Festival international de géographie du sein des Vosges en France. Un sujet a mobilisé toute l'attention à ce matin pluvieux. Un spécialiste de renommée mondiale tient une conférence sur le rôle des oiseaux comme indicateur des impacts du changement climatique sur le vivant. Impossible de louper ça. La question est simple et délicate à la fois. Il faut savoir lire la nature. Et pour les scientifiques, il n'y a pas meilleur sujet que l'observation des oiseaux. Un oiseau doit vivre avec des contraintes majeures, avoir une bonne température, trouver à manger pour soi-même et suffisamment de nourriture pour faire grandir les petits. Et il faut ajouter l'impératif de sécurité. C'est pour toutes ces raisons que les nuages d'oiseaux se déplacent tout le temps. Certains oiseaux font des milliers de kilomètres pour fuir les mauvaises saisons et trouver un lieu de vie favorable. Sans oublier que les oiseaux sont eux-mêmes des proies. À la fin de la conférence, nous avons eu un long entretien avec Norbert Lefranc, chargé de mission biodiversité et gestion de la faune sauvage au ministère de l'écologie.
Norbert Lefranc, je suis retraité, je suis maintenant retraité bien sûr, et j'ai travaillé à la DIREN, ce qu'on appelait la DIREN, la Direction Régionale de l'Environnement, qui dépend du ministère de l'écologie. Et mon bureau était à Metz.
Alors là, vous venez de faire une conférence sur les oiseaux. Et c'est intitulé « Est-ce que les oiseaux sont-ils un indicateur pour nous ?»
Oui, les oiseaux sont bien observés en France et en Europe. Les populations sont bien suivies, y compris les populations des oiseaux communs ou qui étaient communs. Il y a des programmes nationaux pour les suivre, pour les monitorer, comme on dit maintenant. Donc, on est bien renseigné sur les évolutions de ces populations d'oiseaux pour les, disons, 40-50 dernières années. Les ornithologues se déplacent sur le terrain et pendant 5 minutes notent tout ce qu'ils rencontrent, tout ce qu'ils entendent comme oiseaux. Et ils se déplacent ensuite en autre secteur, restent à nouveau 5 minutes et notent tout. Et cela se fait à l'échelle du pays, à l'échelle de la France. Et tout ça, c'est piloté par le Muséum National d'Histoire Naturelle, qui ensuite fait des synthèses. Il y a au moins 10 000 personnes actives sur le terrain, donc, qui s'intéressent à l'ornithologie de très très près. Des personnes qui sont capables d'identifier les oiseaux, de reconnaître leurs cris et leurs chants.
Et de reconnaître les cris et les chants.
De reconnaître les cris et les chants. Oui, quand vous faites des recensements d'espèces, quand vous voulez étudier l'évolution des populations, il est très utile de connaître les cris et les chants.
Et les plumages aussi.
Oui, oui, l'identification par le plumage, bien sûr. Puis vous avez aussi les oiseaux de nuit, hein. Il faut connaître les cris des chouettes, les chants des chouettes, des hiboux, bien sûr.
Et donc, Monsieur Lafontaine avait raison quand il parlait de votre ramage et de votre plumage.
Oui, tout à fait. Lafontaine avait raison sur beaucoup de choses. Hein.
En France, des naturalistes passionnés comptent les oiseaux chaque printemps, accumulant progressivement une grande quantité de données standardisées et quantifiées. À la base, il y a l'observation des oiseaux par les citoyens, notamment pour suivre et comprendre l'évolution des populations. Et tout cela est bien organisé, que ce soit au niveau national ou au niveau européen.
Bon, en France, vous avez la Ligue pour la protection des oiseaux, hein, qui est très active dans tous les domaines, dans le domaine de la recherche, mais aussi dans le domaine de la conservation. Et vous avez aussi une société qui s'appelle la Société ornithologique de France, qui est également basée à Paris, hein, et qui a une approche très scientifique de tous ces problèmes. Et bien sûr, le Muséum d'Histoire Naturelle, qui est très actif aussi.
Alors aujourd'hui, les actions anthropiques et les actions climatiques ont mis à mal la biodiversité. Les oiseaux en font partie.
Oui, tout à fait. Et comme je vous l'ai dit, les oiseaux sont vraiment des indicateurs. Bon, le simple fait qu'ils sont faciles à observer, qu'ils intéressent à beaucoup de monde, c'est grâce à eux qu'on s'aperçoit de ce qui se passe. Parce que là, je parlais d'oiseaux, mais évidemment, le problème se pose pour d'autres espèces, pour les reptiles, pour les batraciens, pour les mammifères, les petits mammifères, sans oublier la flore, bien sûr. Hein.
Vous avez dit qu'il fallait une enveloppe climatique pour une espèce d'oiseau.
Oui.
Chaque espèce.
Chaque espèce, oui, oui. Chaque espèce est en quelque sorte soumise à ce qu'on pourrait appeler une enveloppe thermique, une niche climatique. Et bien sûr, ça varie beaucoup selon les espèces. Certaines ont une amplitude, disons, écologique beaucoup plus vaste que les autres. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure du casse-noix. Le casse-noix est vraiment limité à la montagne. Alors que le geai, qui est son cousin en quelque sorte, lui, on le trouve un peu partout, dans tous les types de forêts, et depuis le sud de l'Espagne jusqu'au nord de la Finlande et de la Bretagne jusqu'en Roumanie et au-delà. Hein. Donc là, s'il y a des menaces qui pèsent sur les espèces, elles pèseront surtout sur ces oiseaux qu'on pourrait appeler spécialistes, qui sont liés à une enveloppe climatique et à un habitat plus restreint que les autres. J'ai parlé de la pigrée à chapeautée rose tout à l'heure, qui est très thermophile et qui migre. Elle a besoin d'été chaud et sec, climat continental ou climat méditerranéen. Donc elle n'est pas chez nous en hiver, elle migre en Afrique et comme je vous l'ai montré, jusqu'au Botswana et en Namibie. Très thermophile, donc c'est une espèce qui théoriquement devrait profiter du changement climatique. En Europe, l'ennui c'est qu'il y a aussi changement climatique en Afrique. Et il y a de plus en plus de sécheresses, surtout dans ces zones-là d'Afrique du Sud. Et ces sécheresses ont un impact négatif sur toute la biodiversité, sans oublier l'homme hein, et les animaux domestiques.
Là-dessus, nous, on est venu avec l'agriculture industrielle.
Alors, l'agriculture industrielle, bon, elle a commencé dans les années 60. Et à cette époque-là, je crois que les ingénieurs ne se sont pas trop posé de questions en ce qui concerne la nature. Hein. C'était vraiment assez radical. Et c'était un grand problème, surtout pour les oiseaux qui sont inféodés à ce qu'on appelle les milieux semi-ouverts et qui se sont bien adaptés à une agriculture qu'on pourrait maintenant appeler archaïque, par opposition à ce qu'on a maintenant, donc qu'on appelle l'agriculture conventionnelle.
Donc ce qu'il faut pour un oiseau, c'est-à-dire il faut, c'est ce que vous appelez l'enveloppe thermique, il lui faut qu'il puisse nicher un habitat, il faut qu'il puisse trouver à manger.
Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Les besoins essentiels, c'est effectivement un habitat qui lui convienne. Cet habitat est surtout sélectionné grâce à des critères concernant la structure de la végétation, la physionomie de la végétation. Ensuite, il faut bien sûr que l'oiseau s'assure de trouver une nourriture adéquate à l'intérieur de cet habitat. Et aussi qu'il mesure un peu les dangers éventuels qui pourraient être provoqués par des prédateurs. Donc il choisit son habitat en fonction de ces critères-là.
Alors, les changements climatiques ?
Les changements climatiques vont avoir une incidence forte sur la biodiversité, y compris bien sûr sur les oiseaux. Il est prévu que leurs aires de répartition se déplacent vers le nord-est, en moyenne, d'après un atlas qui a été publié en Angleterre, de 550 km vers le nord-est. Voilà. La niche thermique se déplace. Il faut aussi que l'oiseau retrouve un habitat adéquat, favorable. Et ça, c'est beaucoup moins évident, parce que la végétation suit beaucoup moins lentement que le déplacement, que le réchauffement climatique.
Vous avez parlé d'une espèce qui habituellement vit en montagne, au-dessus d'un certain niveau de hauteur,
oui.
Et qui ne peut plus monter parce qu'on ne peut pas monter indéfiniment.
Non. Oui, j'ai évoqué le pipit spioncel. C'est un petit passereau qui vit uniquement en montagne à l'époque de la reproduction et qui en hiver descend dans les vallées près des rivières. Mais au printemps, donc en été, on le trouve uniquement en montagne, au-dessus de 1100 mètres dans les Vosges et au-dessus de 1500 mètres dans les Alpes. Et là, le danger pour cette espèce, avec le réchauffement climatique, c'est qu'elle ne pourra pas monter plus haut.
Ah oui, donc, la montagne a une limite quand même.
Oui, bien sûr, il y a une limite. Si l'enveloppe thermique change dans ces montagnes, et l'espèce... Et puis de toute façon, son habitat aussi va être transformé.
Mais comment vous mesurez qu'une espèce a un fort déclin ?
Oui, alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des programmes nationaux pour suivre l'évolution des espèces, comme ce qu'on appelle le suivi temporel des oiseaux communs. Mais pour les espèces rares, là, il y a vraiment un suivi très, très rapproché, si on peut dire. Le grand étrin est suivi de près sur ce qu'on appelle ces places de champ. Il y a des recensements qui sont faits pratiquement à l'individu près, voyez. Et chaque printemps, les places de champ de cette espèce, cette grande espèce, sont connues. Donc, il y a des observateurs qui passent la nuit, qui sont dans des tentes qui sont bien cachées pour que l'espèce ne les repère pas et qui comptent le nombre d'oiseaux présents. Vu ou entendu, d'où l'importance à nouveau de bien connaître le chant des oiseaux.
Il faut vraiment aimer ça.
Oui, il faut aimer ça, oui. Mais écoutez, il y a des gens qui, dans ces cas-là, par exemple, passent facilement la nuit en montagne. Parce que cette espèce-là, il ne faut surtout pas la déranger. Il faut donc se mettre dans la tente d'affût le soir à 17h. Enfin, je peux vous le dire parce que je l'ai fait souvent. À 17h, ensuite passer la nuit, écouter, regarder au lever du jour ce qui se passe. Et puis ensuite attendre que tout soit terminé, que le chant soit terminé pour quitter l'endroit, pour quitter justement ce qu'on appelle la place de chant.
Cette observation requiert une grande expérience. D'abord, savoir ce qu'on appelle un oiseau commun, c'est-à-dire un oiseau propre à un terroir, et un oiseau rare, c'est-à-dire un oiseau dont la présence dans une zone géographique donnée est inhabituelle. Cette présence peut être due à des facteurs naturels comme des coups de vent ou des erreurs de trajectoire lors des migrations. Or, en 2020, on a recensé autour de 11 150 espèces d'oiseaux dans le monde, dont plus de 570 espèces pour la seule France. Difficulté supplémentaire, les migrations saisonnières de certaines espèces. Sur environ 600 espèces d'oiseaux terrestres qui nichent en Europe et en Asie, 40% migrent en automne pour gagner des régions plus favorables et trouver de la nourriture. Si la plupart restent sur leur continent d'origine, certaines espèces effectuent des milliers de kilomètres pour rejoindre leur destination finale.
Ah, mais les oiseaux communs, c'est... Par exemple, je vous ai montré tout à l'heure l'alouette des champs, qui est toujours, mais beaucoup moins, commune, un espace commune. Et puis il y avait aussi une photo d'une perdrix, qui était également commune, mais qui l'est beaucoup moins maintenant.
Vous avez parlé d'une la grue cendrée, je crois,
oui.
Qui ne migre plus.
Si, elle migre toujours, mais moins loin. La grue cendrée, elle niche dans les zones humides de la taïga, donc dans le nord de l'Europe. Et en automne, elle descend donc vers le sud. Et une de ses lignes de migration passe par la France, l'Espagne, et ensuite l'Afrique du Nord, notamment le Maroc. Mais on constate depuis plusieurs dizaines d'années maintenant qu'il y a de moins en moins d'oiseaux en Afrique du Nord et en Espagne. Beaucoup d'oiseaux maintenant s'arrêtent déjà en France.
Et pourquoi ? Et
ben justement parce que les hivers sont plus doux et en plus elles trouvent des conditions favorables. Tenez-vous bien, grâce à l'agriculture industrielle que j'ai évoquée tout à l'heure et qui lui procure quand même de grands espaces ouverts qu'elle aime bien. Elle aime bien se sentir à l'abri en voyant les prédateurs arriver de loin. Voyez, donc elle aime bien ces grandes plaines ouvertes, et en plus, elle trouve des graines de maïs, des graines de céréales.
Donc pour nous humains, ça veut dire il y a quelque chose qui ne va pas.
Ah oui, oui, ça c'est sûr. Là, on retrouve le rôle d'indicateur des oiseaux. Ils nous alertent, en quelque sorte, pour dire, oui, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans la nature. Donc, l'homme est directement concerné, lui aussi. Et là, on voit les oiseaux, mais en fait, toute la vie est bouleversée, tous les animaux, les plantes, mais l'homme aussi est directement concerné par ce qui se passe et ce qui va encore se passer.
Ah, ça veut dire qu'il y a pas, les oiseaux nous avertissent, mm-hmm. Et on ferait mieux d'entendre ce qu'ils nous disent.
En quelque sorte, oui. De ce qu'ils nous indiquent, même indirectement. Oui, oui, absolument.
Vous avez parlé d'un prédateur qui, lui, à la fin, je pense le faucon pèlerin, qui, lui, à la fin, comme c'est un prédateur, il récolte toutes les saletés que les autres consomment. Si je peux dire, en termes de pesticides.
Oui, tout à fait, oui, tout à fait. C'était le faucon pèlerin, il était dans l'actualité ornithologique, et même dans l'actualité tout court, dans les années 60-70, parce que ces populations ont fortement régressé à cette époque-là. Et d'abord, on ne savait pas trop pourquoi. Et puis, on s'est rendu compte, effectivement, que c'était à cause de pesticides, notamment à cause des DDT, qui s'accumulaient le long des chaînes alimentaires, qui passaient par d'autres animaux dont ils se nourrissaient, notamment des petits oiseaux, et qui se retrouvaient donc à forte dose, peut-on dire, et chez le faucon pèlerin, et qui n'arrivait plus à se reproduire correctement. Les coquilles d'œufs se brisaient facilement, où les jeunes mouraient déjà dans l'œuf. Hein. Et donc la population baissait très très fortement. Ces pesticides extrêmement virulents, extrêmement mauvais, ont été interdits, et le faucon pèlerin a pu quand même regagner du terrain perdu. Dans les Vosges actuellement, il y a à peu près 75 couples, dans le massif, hein, dans l'ensemble du massif. Alors que dans les années 60-70, on pensait vraiment que l'espèce allait s'éteindre, au moins sur le plan local.
Donc en fait, votre préoccupation avec tous vos collègues, c'est de suivre les oiseaux pour comprendre qu'est-ce qui se passe, mmh. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer.
Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et bon, c'est pas toujours facile, parce que là, les tendances lourdes de l'agriculture, on ne peut pas faire grand-chose. Il y a quand même des mesures agri-environnementales qui sont prévues par l'Union européenne. Et il faut essayer de persuader certains agriculteurs d'adapter ces méthodes-là, enfin ces mesures, pour permettre à la biodiversité de subsister, même dans les zones très prises par l'industrie agricole.
Je vous remercie.
Merci.
À l'occasion du 31e Festival international de géographie du Saint-Dié des Vosges en France, nous avons suivi une conférence sur le rôle des oiseaux comme indicateur des impacts du changement du climat sur le vivant. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission RFI.fr, pour nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Si vous aimez cette émission Le Coq Chante, on vous conseille de vous y abonner en recherchant Le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire.